Je ne sais pas si vous êtes du genre à prendre des résolutions, mais Isabelle, peut-être que vous allez nous motiver à continuer de les respecter, de les suivre, parce que dans les 9 habitudes pour changer sa vie en un mois, il y a quelque chose qui ressemble à des résolutions.
Effectivement. Puis si jamais c'est trop pour vous, ben, peut-être que vous pouvez changer votre vie en 9 mois, puis rajouter une habitude par mois au bout de 9 habitudes. Ça va peut-être être plus facile à intégrer dans votre vie. Mais il y a des choses que vous faites probablement déjà. Donc, c'est cet article de Félix Desjardins qui est paru dans le Journal de Montréal le 31 janvier. Et il y avait deux articles, aussi un article le même jour, sous la même plume, qui s'intitulait « La recette à suivre pour changer ses mauvaises habitudes pour de bon ». Donc, si jamais vous voulez non seulement faire ça pendant un mois, mais que ça dure plus longtemps, vous pouvez aussi lire cet article-là qui est très intéressant. On donne des trucs, donc, pour, quand on change nos habitudes, nous aider à les garder.
C'était aussi dans le Journal de Montréal, cet article?
Tout à fait, le même journal, le même jour. Donc, un petit mini-dossier, en quelque sorte.
Donc, 9 habitudes pour changer sa vie en un mois. On n'a pas beaucoup de temps, là, parce que février est entamé, puis il ne dure pas longtemps.
Non, bien, si vous êtes comme moi, vous savez, hein, chaque année, je fais le 28 jours sans alcool, mais je commence le 14 février.
Après la Saint-Valentin? Ou le jour de la Saint-Valentin?
Oui, moi, je suis célibataire, donc la Saint-Valentin, pour moi, c'est... C'est un jour comme un autre, mais c'est ça, c'est mon premier jour. Donc, je vais peut-être commencer le 14 février à changer ces 9 habitudes-là. Donc, la première, 30 minutes d'exercice par jour. Donc, ça, peut-être que vous faites des journées, quand même plusieurs. Le journaliste a interrogé 3 personnes, donc une médecin de famille, une psychologue et une nutritionniste pour écrire son article. Et là, c'est la médecin de famille qui nous parle, qui est aussi... experte en prévention gériatrique. Donc, il faut choisir quelque chose qu'on aime et ça n'a pas besoin d'être 30 minutes consécutives, mais plutôt cumulatives. Donc, 30 minutes cumulatives par jour, on est tous capables de faire ça. Elle propose l'alternance entre l'aérobie et la musculation pour les meilleurs résultats. Mais par contre, elle dit que n'importe quelle activité qui va nous faire déroger de notre sédentarité peut être bénéfique. C'est bon pour le cœur, mais c'est aussi très bon pour le cerveau.
Oui, et elle dit aussi qu'il faut que ça soit un peu inconfortable.
C'est ça. Le plus important, en fait, c'est que ça... Donc, autrement dit, pas juste faire une petite marche là, très, très lente qui ne va pas nous faire sentir que notre cœur bat un peu plus vite. Mmh. Effectivement, vous avez bien fait de le souligner. Il faut que ça soit un peu inconfortable. Et les effets à court terme, ben, c'est la sécrétion d'hormones de bien-être. Une qualité du sommeil qui va être améliorée et la réduction des fringales parce que ça va nous aider à sécréter de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Et à long terme, ça peut aussi prévenir des maladies neurologiques comme l'Alzheimer et des conditions cardiovasculaires, évidemment, parce qu'on va améliorer notre cardio. Ensuite, réduire sa consommation d'alcool de moitié. Et là, encore, bon, c'est ça, on est bientôt là avec au début du défi 28 jours sans alcool. Elle dit, le docteur Villemur, qu'il y a quelques années, quand Éducalcool est sorti en disant que l'idéal, c'était zéro consommation, ça a créé un cynisme. Peut-être que ça a un peu découragé les gens parce qu'ils se sont dit, ben là, si zéro, je suis pas capable, fait que tant qu'à ça, je vais continuer de boire autant que je bois. C'est peut-être pour ça qu'elle suggère de juste réduire de moitié. Donc, si vous n'êtes pas capable de descendre à zéro, qui est l'idéal, ben faites au moins la moitié, donc au lieu de 2 verres de vin, buvez un seul verre de vin, vous allez déjà voir une amélioration.
Oui, Isabelle, vous avez dit que le défi 28 jours approchait, mais on est dedans, là, parce qu'on est le 4 février, mais c'est parce que vous commencez le 14.
Quand j'ai lu l'article, c'était la veille.
Oui, oui.
Mais, merci.
Ça me fait plaisir.
Donc, c'est ça. Mon défi à moi commence bientôt. Le vôtre est peut-être déjà commencé. Donc, c'est ça, ça va...
Je fais pas ça, moi, ce genre de défi-là. Je fais juste arrêter de boire. J'ai diminué de beaucoup ma consommation d'alcool.
Oui, bien, moi, ça m'aide un peu. Je sais pas, psychologiquement, le fait d'avoir une date. Puis là, ben, c'est ça. On commence, on se dit que ça va être juste pour un mois, puis éventuellement, on peut continuer plus longtemps.
Chacun sa façon, hein?
Qualité du sommeil accrue, oui, c'est ça. L'important, c'est de s'améliorer. Et chacun à notre façon et à notre rythme aussi. Donc, c'est ça, réduire la quantité d'alcool, ça va donner plus d'énergie, améliorer notre morale, détoxifier nos nerfs et nos muscles, apparemment. Et à long terme, encore une fois, la prévention des maladies cognitives, l'amélioration des réflexes et de la vivacité et réduire nos risques de chute. Évidemment, on reconnaît ici là, la médecin qui est spécialiste en prévention gériatrique, mais on veut tous avoir une belle qualité de vieillesse, donc c'est jamais trop tôt pour commencer.
Pour commencer ou arrêter de boire?
Pour commencer, oui, c'est ça, à faire des changements.
Oui, oui.
Donc, instaurer une routine de sommeil. Dr. Villemur met l'accent sur la qualité du sommeil et non sur la longueur de la nuit. Elle dit, on ne peut pas se coucher à 22 heures et espérer s'endormir à 22h15. Il faut respecter le rythme de notre corps. On a chacun probablement un rythme différent. Ça veut dire pas d'écran 2 heures avant le dodo. Mm. Et idéalement, se coucher et se réveiller toujours à la même heure. Et elle mentionne que les autotraitements pour s'endormir, comme le Benadryl, Gravol, les suppléments de mélatonine même, ça diminue la qualité du sommeil.
Oui.
Donc, mieux vaut dormir moins, mais dormir mieux.
Ça m'étonne concernant les suppléments de mélatonine. Il y en a qui ne jurent que par ça.
Moi aussi, ça m'a beaucoup étonnée. Mais c'est...
On va croire la docteur Villemur.
Voilà. Et les effets à court terme, ben, une hausse d'énergie, amélioration de la mémoire, de l'agilité cognitive et de la réparation cellulaire. Donc, quasi notre corps à se réparer. Puis, à long terme, encore une fois, on va baisser les risques de maladies cardiovasculaires et ça va prévenir la prise de poids. Parce que oui, manquer de sommeil, ça peut avoir un impact sur notre prise de poids. Quatrième conseil, prendre soin du lien avec l'autre. Et je ne saurais pas trop souligner l'importance de ce conseil-là. On est dans la semaine de prévention du suicide. J'ai vécu moi-même la perte d'un proche dernièrement. Et le fait de me rapprocher de mes amis, ça fait tellement une grande différence. Donc, là, ici, c'est Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne, qui a aussi écrit un livre, un guide pratique pour s'aider soi-même. Et donc, elle prie chaque personne de briser l'isolement, et ça quotidiennement. Donc, il faut essayer d'alimenter une relation ou au minimum de créer un contact social, que ce soit discuter avec un proche, planifier une activité, appeler un ami. C'est un besoin fondamental pour les êtres humains.
Oui, et j'ajoute, Isabelle, en passant, ben, toutes mes condoléances. Oui. Là, vous avez perdu un ami très proche. Et j'ai ici la ligne d'aide en cas de crise de suicide. C'est facile à retenir. L'horaire, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider, vous accompagner, vous écouter. C'est 988, 988, tout simplement.
Merci beaucoup. Et donc les effets positifs, c'est ça, de prendre soin du lien avec l'autre, l'allègement du quotidien. La sécrétion d'hormones de bien-être, encore une fois, et ça va améliorer notre longévité. Cinquième conseil, mais deuxième dans la même optique, un petit peu, s'offrir un moment de plaisir, parce que pour améliorer notre santé physique, on améliore notre santé mentale. Dans mon travail avec mes patients, nous dit la psychologue Mme Beaulieu-Pelletier, je leur demande souvent, il a été où ton plaisir aujourd'hui? Donc, pas juste s'offrir un petit moment de plaisir à chaque semaine, à toutes les deux jours, à chaque jour. Le plaisir par le mouvement, c'est encore plus étable, selon elle. Donc, elle mentionne la pratique d'un sport, un instrument de musique, ou simplement de danser dans sa cuisine quelques minutes. Donc, peut-être votre chanson préférée au moins une fois par jour, puis danser un petit peu. Bref, ça serait on ne peut plus pertinent de retrouver son cœur d'enfant chaque jour. J'aime beaucoup comment elle présente. Il faut se créer des bulles de plaisir. Si on n'en a pas eu de la journée, il faut s'ajuster pour le lendemain. Donc, bon. À chaque jour, pensez à se faire un peu plaisir.
Trouvons nos bulles de plaisir.
Voilà.
Ça peut être tout simple, hein, comme vous parlez de danser dans la cuisine, chanter dans la voiture, manger une bonne brioche...
Oui, ça fait un petit bol de crème glacée là, avec un petit peu de chocolat dessus.
Ah oui, ça peut être une bulle de plaisir.
Peut-être pas que ça soit ça le plaisir à chaque jour,
non.
Mais vraiment faire quelque chose qui va être pour soi. Donc, je ne vous donnerai pas les effets positifs à chaque fois parce qu'on n'aura pas le temps, mais ça revient toujours pas mal au même. Le fait de se faire plaisir, c'est un antidépresseur naturel, selon la psychologue. Sixièmement, s'arrêter plusieurs fois par jour. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment important. Oui, des fois, on est dans la frénésie, métro, boulot, dodo, amener les enfants au hockey, etc.
On est des automates, on oublie
de
respirer.
Donc, c'est impératif de prendre des pauses. Elle suggère, Mme Beaulieu-Pelletier, de créer des micro-moments de pleine conscience, détourner son attention des écrans et du travail plusieurs fois par jour. On est sur le pilote automatique. Et on a tendance à ruminer, ce qui est plus difficile. Ça permet de stopper la ligne chronique de stress qu'on peut avoir dans notre journée.
Bulle de plaisir, micro-moment.
Oui, moi, je suis bonne là-dedans. J'avoue que ça, je suis capable de décrocher plusieurs fois par jour.
Bravo.
Mes lacunes sont ailleurs. septième conseil, cuisiner le plus souvent possible. Parce qu'évidemment, là, moi, j'ai une chronique alimentation. Là, on a un peu dérogé de ça aujourd'hui, mais il y a quand même des conseils qui regardent votre assiette. Donc, le concept même de sortir son tablier, de planifier ses repas de la semaine peut être vraiment vertigineux pour certaines personnes, mais les retombées positives sur notre santé de cette habitude-là sont inestimables. On met de côté les aliments ultra transformés, on mise sur les aliments entiers et frais. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire quand on cuisine soi-même. En plus là, de nous offrir une plus grande variété nutritionnelle, ça va nous aider au niveau de notre énergie, ça réduit notre consommation d'aliments indésirables, etc. Le huitième conseil...
Et l'action de cuisiner aussi, je trouve que c'est extrêmement thérapeutique.
Oui, je suis d'accord. Ça peut faire partie de plusieurs catégories. Donc, ça peut être cuisiner avec votre famille, donc créer des liens. Ça peut être un moment de plaisir si on aime particulièrement cuisiner. Le huitième conseil, donc réserver 50% de son assiette aux fruits et légumes. Donc, vous pouvez les intégrer quand vous faites la cuisine ou simplement ajouter des fruits quand vous n'avez pas assez de légumes dans votre repas. On l'entend souvent, c'est primordial de mettre de la couleur dans notre assiette. Là, ici, c'est Mme Bluchot, la nutritionniste. Je n'ai pas mentionné son nom, mais Judith Bluchot, qui est nutritionniste diététicienne, qui donne ses conseils au niveau de l'alimentation. Donc, elle dit on peut essayer de suivre les récoltes saisonnières. Hein, des fois, les fruits, les légumes sont chers. On achète ceux qui sont en saison. On a tendance à économiser dans ce temps-là. Chaque repas ou collation est une occasion de manger des fruits et légumes. Donc, on peut toujours ajouter un petit fruit, un petit légume. Peut-être se couper, ça c'est mon conseil, à moi, se couper des carottes ou un autre légume qu'on aime beaucoup manger, se faire une petite activité de préparation. Puis après ça, on en a toujours sous la main quand on veut en ajouter. Et le dernier conseil, donc, diversifier les protéines. Les protéines dominent l'espace public en nutrition depuis quelques temps.
Ouais.
Madame Bluchot l'a dit, mais je l'ai vu vraiment sous la plume de plusieurs nutritionnistes qui le déplorent parce que on peut facilement manger trop de protéines. Ça peut être intéressant quand on fait de l'activité physique, mais en général, il ne faut pas dépasser, faut pas manger trop de protéines. Mais surtout, quand on mange des protéines, ben, si c'est de la viande, surtout si c'est de la viande rouge, c'est néfaste pour notre santé. Donc, elle déconseille la surconsommation donc de protéines au détriment d'autres éléments nutritifs. Mais surtout, elle souligne l'importance de varier ses protéines. Donc, intégrer des légumineuses, du tofu, du poisson, des œufs pour réduire la consommation de viande rouge.
J'en profite pour continuer. Oui. Allez-y.
Non, pour aller chercher un plus vaste éventail de nutriments.
OK. Parce que notre collègue Monique Kirouac, qui s'intéresse à la science sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects, va parler justement de protéines. Elle a trouvé un texte dans la conversation. En 2025, les protéines sont passées de nutriments discrets à aliments miracles. Et voici pourquoi cette surenchère n'a rien de scientifique. Je vous invite à être à l'écoute demain à la chronique de Monique Kirouac entre 9h30 et 10h30.
Oh, j'ai lu cet article-là, j'ai failli le choisir, mais je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'autre en parle. C'est très intéressant, en effet. Et donc, en terminant, Mme Bluchot nous donne un petit truc vraiment facile pour ceux qui ne sont pas allergiques aux légumineuses comme moi. Tout simplement, substituer la moitié de la viande par des légumineuses quand c'est possible. Par exemple, si vous faites une sauce à spaghetti ou un chili avec de la viande, bien, remplacez la moitié par des légumineuses. Ça va déjà faire une grosse différence.
Un pâté chinois aussi, hein?
Pâté chinois aussi, et puis ben vous allez voir que ça va avoir en plus des impacts sur votre santé, ça va avoir un impact positif sur le portefeuille parce que les légumineuses, c'est moins cher que la viande.
Oui, la viande hachée a été longtemps très, très économique, mais maintenant, c'est du luxe presque, se faire un hamburger. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations. Je rappelle que vous avez trouvé cet article dans le Journal de Montréal du 31 janvier, c'est tout récent, sous la plume de Félix Desjardins, 9 habitudes pour changer sa vie en un mois. Je trouve ça extrêmement motivant. Ce sont quand même des habitudes, on les connaît, mais les mettre en pratique, c'est pas si compliqué que ça, finalement.
Exactement.
Merci, à la prochaine.
Merci, à la prochaine.